mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour Catherine, bienvenue aux auditeurs.
Bonjour Jean-Louis. Cette semaine, tu veux tisser des liens entre la théorie mimétique de René Girard et un autre concept sociologique, la pensée de groupe. C'est bien cela ?
Exactement. La pensée de groupe est un concept élaboré dans les années 70 par un sociologue américain, Irving Janis. Il s'est demandé pourquoi des groupes de personnes, a priori intelligentes et bien informées, en arrivaient à prendre de mauvaises décisions, non seulement mauvaises, mais parfois même destructrices. En analysant quelques cas de cette catégorie, comme la tentative des États-Unis de créer un soulèvement contre Fidel Castro à Cuba en 1961, c'est l'épisode dit de la baie des cochons, Irving Janis a dégagé des facteurs explicatifs qu'il a rassemblés sous le terme de pensée de groupe. En anglais, groupthink, certains emploient également la dénomination d'effet Janis.
Est-ce que ce concept de pensée de groupe ou d'effet Janis a quelque chose à voir avec la théorie mimétique de René Girard ?
C'est précisément ce que je souhaiterais montrer. Pour cela, nous allons commencer par regarder d'un peu plus près en quoi consiste cette fameuse pensée de groupe.
Surtout, donne-nous des exemples concrets.
Oui, bien sûr, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une théorie, mais d'un constat empirique. Dans un deuxième temps, nous verrons les rapports que l'on peut établir avec la pensée de René Girard. Et enfin, nous regarderons s'il se trouve des enseignements à tirer de ce rapprochement.
Programme copieux. Cela tiendra-t-il dans nos 10 minutes ?
Faisons en sorte que cela tienne.
Pensée de groupe ou effet Janis. De quoi s'agit-il exactement ?
Il s'agit d'un phénomène de dysfonctionnement qui apparaît au sein de groupes ou de communautés, voire de nations tout entières. Janis parle de dysfonctionnement, car ce phénomène conduit le groupe à commettre des erreurs, à prendre de mauvaises décisions, parfois même jusqu'à mettre en péril sa propre existence. Le cœur du phénomène est que le groupe privilégie son harmonie et sa cohésion interne, plutôt que de voir la réalité auquel il est confronté. Or, ne pas voir la réalité en face, c'est précisément ce qui conduit à des erreurs et à de mauvaises décisions. Pour comprendre le mieux possible la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons besoin d'avoir le plus grand nombre de points de vue possibles sur elle.
As-tu un exemple à nous donner à ce stade ?
L'exemple le plus célèbre est celui de Kodak. Son modèle de fonctionnement était de vendre des appareils de photo assez bon marché, et de réaliser la marge sur le développement des pellicules. Survint l'appareil photo numérique. Il pouvait mettre fin au modèle de Kodak, puisqu'avec le numérique, il n'y a plus de pellicules à développer. Les dirigeants de Kodak n'ont pas voulu bifurquer vers le numérique, ils se sont enfermés dans l'idée que la photo c'était de la chimie, et pas de l'électronique, et que les gens allaient rester fidèles à la photo sur papier. La réalité leur a donné tort, et en 2012, Kodak a fait faillite. Son ralliement au numérique fut trop tardif.
N'est-ce pas simplement une erreur d'appréciation d'un dirigeant ou d'un groupe de dirigeants ?
C'était plus qu'une erreur. Une erreur se corrige. Dans le cas de Kodak, non seulement les dirigeants, mais aussi les actionnaires se sont entêtés. C'est le phénomène même mis en évidence par Irving Janis. Il ne s'agit pas d'une incapacité ou d'une lenteur à voir la réalité, mais d'un déni collectif de celle-ci. Le plus incroyable de l'affaire est que l'appareil photo numérique fut mis au point dans les laboratoires de recherche de Kodak par un ingénieur nommé Steven Sasson. Mais les dirigeants n'ont pas voulu développer cette technologie.
As-tu d'autres exemples ?
Un autre exemple est celui de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011. Tout le monde pensait que les industriels japonais étaient parfaitement exemplaires. Or, une enquête, diligentée par le Parlement japonais, mit en évidence de nombreux manquements. Depuis des refus de travaux d'amélioration jusqu'à des falsifications de comptes rendus de visites de sécurité. Avant même le procès qui s'ensuivit à leur encontre, les dirigeants de la compagnie propriétaire de la centrale reconnurent leur tort et déclarèrent avoir été victimes de la pensée de groupe. Ils s'étaient enfermés dans l'idée de leur propre excellence.
Jean-Louis, quel est l'indice que le groupe a basculé dans l'effet Janis et qu'il n'est pas simplement devant une réalité complexe à cerner?
Stephen Janis a identifié plusieurs indices. Le premier est le plus évident, un consensus qui règne au sein du groupe. Tout le monde est convaincu, ou plus exactement se montre convaincu, du même point de vue. Il n'y a pas de point de vue alternatif. Un deuxième indice est que ce consensus s'établit autour d'un dogme. C'est la pensée dominante, voire exclusive dans le groupe, d'où le nom pensée de groupe d'ailleurs. Ce dogme remplace la réalité, ou en tient lieu. Dans le cas de Kodak, ce dogme fédérateur était que la seule véritable photographie était celle impressionnée sur les pellicules et que les gens n'allaient pas s'intéresser à la photo numérique. Corrélativement à ce dogme fédérateur, un troisième indice est le rejet et l'exclusion des personnes porteuses d'un point de vue différent du dogme dominant. Les êtres humains ont besoin de se sentir appartenir à un groupe. Cela conduit à l'un des aspects les plus caractéristiques de l'effet Janis. Des membres du groupe peuvent avoir en leur for intérieur un avis différent du dogme dominant, mais elles cachent cette divergence par peur d'être exclues du groupe. Le désir de rester dans le groupe est plus fort que celui de soutenir ses propres points de vue. Un autre indice, également relié au concept de dogme, est la présence de, entre guillemets, « gardiens de la foi », c'est-à-dire de personnes veillant sur le respect de la pensée dominante et prontes à dénoncer ceux qui nourriraient des points de vue alternatifs au dogme fédérateur. Enfin, la désignation d'un ennemi est également un indice identifié par Irving Janis. Les groupes atteints de ce syndrome finissent toujours par enregistrer des échecs puisqu'ils campent dans le déni de la réalité. Ils se dédouanent de leurs échecs en attribuant la responsabilité à un ennemi extérieur plus ou moins imaginaire. En fait, il s'agit d'un bouc émissaire au sens de Girard. Cette désignation d'un bouc émissaire se combine avec la dénonciation des points de vue divergents au sens du groupe. Les personnes défendant des avis s'écartant du dogme sont qualifiées de traîtres et sont exclues. Ce mécanisme intensifie encore sur chacun la pression à ne pas s'écarter du dogme fédérateur. Cet alignement accroît encore le danger pour l'organisation, de plus en plus en décalage avec la situation réelle. C'est pourquoi les erreurs engendrées par la pensée de groupe peuvent devenir fatales.
Tu as souligné, chemin faisant, les liens entre l'effet Janis et la théorie mimétique de René Girard. Peux-tu maintenant les récapituler ?
Nous en avons deux. D'une part, le mimétisme facilite le phénomène de rassemblement des membres du groupe autour d'une idée fédératrice. Il rend difficile de soutenir des points de vue originaux ou divergents. C'est le premier lien. Le deuxième est le recours à des boucs émissaires que Janis a décelé dans les groupes atteints du syndrome qu'il cherchait à décrire.
Et quel est l'intérêt de faire ce rapprochement ?
Le rapprochement entre théorie mimétique et pensée de groupe intègre la pensée de groupe dans une vision anthropologique complète, sans quoi ce concept de pensée de groupe ne resterait qu'une simple observation empirique dont la portée serait indécise. Réciproquement, la pensée de groupe apporte des exemples et des cas concrets à la théorie mimétique de René Girard. Les travaux de Janis ont permis de prendre conscience du phénomène et ensuite d'y porter remède. Par exemple, le fait que le copilote ne puisse donner un avis divergent au commandant de bord a conduit à des accidents d'avion. Le secteur aérien, sur la base des travaux de Janis, a mis au point des procédures permettant l'expression de tels avis pour mieux éclairer le commandant de bord et élargir sa perception de la situation sans pour autant lui faire perdre son autorité. Autre exemple, certains dirigeants commencent leur réunion en disant, en substance, « Nos rivaux interprètent la situation différemment de nous. » Y a-t-il dans leur vision des enseignements à tirer ? D'autres encore instituent un avocat du diable ou un fou du roi disposant de la faculté de bousculer le point de vue du groupe sans cependant s'en faire exclure.
Il y a sans doute encore beaucoup à dire, Jean-Louis, mais nous voilà au bout de cette émission.
Il nous reste à saluer les auditeurs. Au revoir Catherine.
Au revoir Jean-Louis. Au revoir à tous.